VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. À Abuja, au Nigeria, ouverture aujourd'hui d'une conférence de 3 jours sur la région du lac Tchad, organisée conjointement par le gouvernement nigérien et l'UNESCO. Objectif, lancer un projet de préservation de cette région dévastée par le changement climatique et les conflits. De nombreux représentants des 4 pays qui bordent le lac, Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria, ainsi que de la République centrafricaine, sont attendus à la réunion pour discuter de solutions pour revitaliser l'écosystème du bassin du lac Tchad pour une subsistance durable, la sécurité et le développement. Les Nations Unies estiment que l'instabilité sécuritaire et alimentaire a forcé 2 millions d'habitants de la région à quitter leur foyer et 10 700 000 autres dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Au Cameroun, toujours pas de nouvelles du délégué régional des affaires sociales Nimbon Aongyan, dont l'enlèvement a été revendiqué hier par l'Ambazonia Defense Force, l'un des bras armés des séparatistes anglophones. Le haut responsable a été kidnappé samedi par des hommes armés dans la région du Nord-Ouest, le 2e rapt de ce genre en zone anglophone. Plus de détails avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Le délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest revenait d'un deuil lorsqu'il a été attaqué à bord de son véhicule de service par des hommes armés se déplaçant sur des motos. La scène s'est déroulée dans le village Ambo, à plus de 400 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le délégué a été suivi par ses ravisseurs, a déclaré le sous-préfet de Batibo, descendu sur les lieux. Dimanche, à mi-journée, dans une communication de propagande via les réseaux sociaux, l'Ambazonia Defense Force, l'une des branches armées des séparatistes anglophones, a revendiqué l'enlèvement de l'autorité administrative. Son chauffeur a été relâché. Nous avons retrouvé son véhicule calciné au quartier Atanga à Ambo, a confié dimanche soir à VOA Afrique, une source de sécurité de la région du Nord-Ouest. Mais les recherches se poursuivent activement selon les services du gouverneur de la région. Cet enlèvement est le 2e du genre dans l'arrondissement de Batibo où le sous-préfet de la localité avait subi le même sort le 11 février dernier. Il reste introuvable. L'Ambazonia Defense Force avait également revendiqué cet enlèvement et calciné le véhicule du sous-préfet. Depuis le 9 février 2018, la région du Nord-Ouest est sous un couvre-feu. Yaoundé, Emmanuel Jeluta, VOA Afrique.
RDC, controverse autour du bilan de la répression de la marche du dimanche 25 février contre le pouvoir du président Joseph Kabila. Les chiffres évoqués par la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place et la Conférence épiscopale nationale du Congo d'une part et la police nationale congolaise de l'autre se contredisent. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
2 morts et 47 blessés pour la MONUSCO, même bilan évoqué par la Conférence épiscopale nationale du Congo. 3 morts et 10 de blessés pour le comité laïque de coordination initiatrice de la marche. Aucun mort, mais des blessés à Kinshasa, à Kisangani et à Mbandaka selon la police nationale congolaise. Le bilan de la répression de la marche du dimanche 25 février 2018 divers selon les sources. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerougui, annonce par ailleurs plus de 100 arrestations à travers le pays. Le porte-parole de la police, le colonel Pierre Monampoutou, n'évoque lui que quelques interpellations, notamment à Goma. La marche initiée par le comité laïque de coordination, mouvement proche de l'église catholique contre le pouvoir de Kinshasa s'est heurté aux forces de l'ordre. Au chapitre des réactions, Leila Zerougui appelle les autorités congolaises à mener des enquêtes crédibles sur ces incidents et à prendre des sanctions appropriées contre les coupables. Elle appelle par ailleurs toutes les parties à la retenue. Le rassemblement de l'opposition condamne lui l'usage excessif de la force pour disperser une manifestation pourtant pacifique. Le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, déplore de son côté l'attitude de défi du comité laïque de coordination vis-à-vis de l'autorité urbaine qui avait interdit la marche. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, des véhicules ont été caillassés et des pneus brûlés ce lundi à Conakry, la capitale, transformée en ville morte à l'appel des enseignants en grève depuis 2 semaines. Du puissant syndicat UTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guinée, et de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors des récentes élections. Dans un climat social et politique déjà tendu, le principal parti de l'opposition, l'UFDG de l'ancien Premier ministre Sélou Daling Diallo, avait appelé vendredi dernier à manifester aujourd'hui à Conakry pour protester contre ce qu'il qualifie de fraude électorale à grande échelle organisée par le gouvernement lors des élections locales du 4 février. Les principaux troubles aujourd'hui à Conakry se sont déroulés dans des quartiers traditionnellement hostiles au régime du président Alpha Condé, comme Kossa, Bambito ou Rouenidara, où tous les commerces étaient fermés. Dans les quartiers de Sangoya équipés, des barricades ont été érigées par endroits. Les écoles de Conakry étaient également à nouveau vides ce lundi. Mali. En prévision des élections générales de 2018, le gouvernement procède à une révision des listes électorales du 25 février au 6 mars. Les Maliens de l'extérieur sont concernés par cette opération et peuvent se rendre dans les consulats et ambassades de leur pays, là où ils habitent. L'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections veut s'assurer que les jeunes s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Écoutez son président, Bissiri Koulibaly.
Tout d'abord, c'est une activité qui a salué. Il y a beaucoup de Maliens qui ne se sont pas fait enregistrer. Nous étions à Kidal. À Kidal, le président de l'autorité intérimaire, Sarara, nous a dit clairement qu'il faut une révision institutionnelle pour que les Kidalois puissent vraiment prendre part aux élections à venir. Sur le terrain, techniquement, ce serait un peu compliqué, difficile, mais pas impossible. Parce que c'est une révision institutionnelle, c'est comme les autres révisions. Le gouvernement déploie les agents sur le terrain et les partis politiques, tous les partis politiques qui sont dans ces localités-là, donc c'est ça les réponses. Présenté par un membre de
l'Alpha. Bissiri Koulibaly, président de l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation électorale. Au Burundi, une convention des Nations Unies élimine toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elles doivent avoir les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie nationale. Qu'en est-il de la situation des femmes dans le pays? Christophe Nkurunziza, notre correspondant sur place, a posé la question aux habitants de Bujumbura. Son reportage.
Madame Mimi Harerimana est une avocate au sein du barreau de Bujumbura, assise dans son bureau du quartier asiatique de la capitale. Elle attend l'arrivée des clients venus lui exposer leurs doléances. Parmi eux, des femmes qui ont été renvoyées de leur boulot respectif du secteur privé ou de la fonction publique sans motif valable. L'avocate reconnaît que même si normalement les femmes burundaises sont traitées équitablement dans la fonction publique et reçoivent des injonctions malencontreuses.
Oui, ces cas existent. Ces cas existent surtout que pour la femme, pendant la grossesse par exemple, elle peut avoir des problèmes de santé et elle peut passer 6 mois sans bien travailler. À la fin de l'année, elle peut être mal cotée. C'est une injustice parce qu'on n'évalue pas la situation de la femme en tant que mère. Des fois, on peut même suspendre son contrat de travail. La loi vraiment est la même pour l'homme et la femme. Il y a certaines difficultés où la femme est mal vue et mal traitée par rapport à l'homme.
Cette autre femme qui travaille dans une des nombreuses pharmacies éparpillée dans les deux communes de la capitale a eu la chance d'être traitée équitablement comme ses collègues hommes pour le bien de toute la boîte. Témoignage.
Là où je travaille, je vois qu'il n'y a pas de discrimination. Je travaille avec mon collègue. On est traité de la même façon en ce qui concerne le nombre d'heures prestées. Notre patron nous considère comme ses employés. Même le salaire est le même. Nous sommes tous considérés de la même façon.
Il est vrai que les femmes et les hommes restent biologiquement différents. Dans la culture burundaise, l'homme est celui qui s'occupe de toutes les affaires courantes, sauf que les femmes regardent surtout tout ce qui a trait à la cuisine. S'il est vrai que la femme est relayée au second plan dans les affaires politiques, sécuritaires, elle commence de nos jours à être l'égale de l'homme. Le Burundi reste un des rares pays où une femme est devenue, dans les années 90, premier ministre. Mais pour Dick, qui est marié et père de plusieurs enfants, l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes ne sont pas pour bientôt.
La société dans laquelle nous vivons est une société macho, pas 10, 15 ans qui vont changer les choses. Je ne crois pas qu'il faut encore des années de sensibilisation. Quand je dis sensibilisation, c'est de la part des autorités, de la société aussi, des associations des femmes qui doivent travailler. Les femmes doivent se battre, elles doivent revendiquer leurs droits. Ça ne s'acquiert pas à un claquement de doigts, donc c'est un long combat.
Il est vrai que des avancées significatives ont été observées au Burundi en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme. D'autres mesures juridiques et constitutionnelles doivent être demain adoptées pour la protection et la promotion des droits des femmes au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, des élèves et enseignants sont revenus dimanche dans leur lycée en Floride pour la première fois depuis la fusillade qui a fait 17 morts. Se réconfortant mutuellement tout en continuant d'appeler les élus à prendre des mesures pour renforcer leur sécurité. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.